Check, check.
Okay.
Enhancing ICANN accountability, October 16th, 2014, the Los Angeles Ballroom, from 8:30 to 9:45.
Thank you. Good morning. We're missing a couple.
Bonjour. Il y a encore quelques personnes et quelques orateurs qui manquent, quelques intervenants qui manquent. Donc, Bruce, Finn et Keith, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir ici? Bonjour à tous. Nous allons parler du renforcement de la responsabilité de l'ICANN. J'appartiens au Centre de démocratie de technologie et je travaille dans le domaine des droits de l'homme. C'est une session dans laquelle nous allons réunir tout le monde. Nous avons différents panels, différents représentants et je pense que vous les connaissez. Nous allons réunir tous les petits morceaux, voir ce qui se fait dans le domaine des groupes de travail intercommunautaire concernant donc les droits de l'homme, l'ICG, les gouvernements. C'est aussi pour vous une occasion de nous poser des questions, des questions difficiles. Qu'est-ce que vous attendez de ce processus? Comment est-ce que vous voudriez que ce processus évolue? Les questions auxquelles vous pensez tout le temps, eh bien, c'est votre moment. C'est le moment de les poser pour nous dire et de nous dire exactement quelles sont vos attentes envers donc ou dans le domaine de la responsabilité. Donc, nous avons une participation à distance. Nous avons 11 centres plateformes qui vont prendre vos questions. Et nous allons présenter d'abord notre panel. Hein? Voilà. Et ensuite, si vous voulez prendre la parole et pour vous rapprocher du micro, on aimerait savoir ce que vous pensez de ce processus. Qu'est-ce que vous pensez qui peut fonctionner correctement dans le domaine du renforcement de la responsabilité d'ICANN? Bien. Bien. Je vais être très brève. Teresa Swinehart prend la parole. On m'a beaucoup entendu cette semaine. D'abord, cette session est faite pour vous donner la possibilité de participer au dialogue qui a eu lieu cette semaine sur cette question. Un thème qui a été donc abordé est la responsabilité dans le contexte de quoi? Dans la transition de la supervision de la fonction IANA, la responsabilité entre les parties opérationnelles dans le contexte de leur relation avec les fonctions IANA. Je pense qu'on pourrait en parler un petit peu plus. C'est un thème qui a été aussi discuté dans le groupe de travail intercommunautaire. On a parlé de la responsabilité dans le contexte des parties opérationnelles concernées par la fonction IANA. Mais l'autre thème qui va être abordé au sein de ces discussions est la responsabilité en fonction de la relation historique avec l'administration américaine et des changements qui ont lieu dans ce domaine. C'est un domaine qui est lié à la supervision, à la transition de la supervision de la fonction IANA et à la possibilité de correspondre aux critères imposés par le NTIA. Beaucoup d'entre nous savent que le processus de proposition dépend de deux flux de travail liés au processus de responsabilité, surtout pour le changement des relations historiques. Mais il y a aussi une série de thèmes qui surgissent concernant la responsabilité pour permettre un deuxième flux de travail qui devrait se faire en parallèle ou de manière séquentielle selon ce que la communauté décidera de faire. Nous avons ici la possibilité d'aborder et d'autres thèmes de responsabilité, d'autres aspects de la responsabilité. Souvent, on se demande ce qui va se faire dans le premier flux de travail, ce qui va se faire dans le deuxième flux de travail. Ça fait partie de la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, justement. Et en outre, je pense qu'un des domaines qu'il faudrait analyser ici, c'est que lorsque la communauté a fait des commentaires lors de la période de commentaires publics, beaucoup de problèmes identifiés étaient accompagnés de solutions proposées qui ont été récompilées, qui ont été recueillies, qui ont été ensuite postées. Le 14 août, cette proposition a été révisée. Elle va être révisée vendredi. Et donc, ce sont les thèmes abordés par la communauté ou proposés par la communauté pendant le processus de commentaires publics qui peuvent être des ressources utiles puisque ça va nous permettre de comprendre ce que la communauté donc souhaite aborder. Et ça nous permettrait d'avoir donc d'organiser ce deuxième flux de travail. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et maintenant, nous donnons la parole à Avery. Merci. Avery Dovra prend la parole. Je vais regarder un petit peu la question de la transparence, du processus de transparence et de responsabilité qui existe actuellement et comment est-ce qu'il correspond à la volonté de renforcer la responsabilité. Nous allons voir la TRT, le rapport que nous avons effectué. Nous allons voir un petit peu comment nous avançons dans le groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité et ce processus double qui a été donc mis en place. Une des choses que je me demande lorsque je regarde cela, je me demande si nous sommes responsables envers qui? Envers nos parties prenantes, principalement. Les parties prenantes qui sont ici, les parties prenantes qui sont dans le monde, dans l'environnement de l'Internet que nous servons. Hein, et à mon avis, il n'y a personne d'autre envers qui nous devons être responsables, si ce n'est les utilisateurs de l'Internet et les parties prenantes. Lorsque je regarde cela, je suis heureuse de voir qu'on parle de renforcer la responsabilité parce que je pense que les mécanismes de la TRT sont des bons mécanismes et en tant que tel, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous baser. Je pense que c'est une manière donc d'améliorer notre responsabilité auprès des parties prenantes. L'NTIA est l'organisme qui doit garantir ce processus et cette légitimité. Et donc, nous devons voir comment renforcer cela. Nous devons considérer cette notion générale d'affirmation, d'engagement avec ICANN, peut-être un réseau peut-être plus large. Il nous faut voir comment maintenir la TRT et ses fonctionnalités. Et pendant que la TRT continue à travailler, et je pense que cela est nécessaire, un des problèmes, et c'est que ce n'est pas suffisant. Et une des choses qui manque ici a été définie par le dernier travail de la TRT. Il s'agit de méthodes valables d'appel et la section 9.2 et la recommandation 9.2 de cela recommandait principalement que l'on explore des notions pour restructurer les mécanismes de révision actuels lorsque l'on parle de NTIA, de la transition, de la supervision d'Yana et autres problèmes. Un des problèmes qui surgit souvent, c'est cette révision, c'est la reconsidération, la possibilité de faire appel. Comment fonctionne tout cela? Donc, la recommandation 9.2 impose la création d'un groupe de la communauté qui serait établi pour discuter des problèmes qui est les problèmes de reconsidération d'un processus indépendant de révision, comment rendre cela plus facile, plus réalisable. Donc cela me paraît être vraiment dans le cadre de cette responsabilité de ce travail en deux voies, en deux flux. Voir quel travail rentre dans quel flux, c'est un problème qui doit être discuté encore. Ma conviction, en tout cas, c'est qu'une partie du travail va rentrer dans le flux numéro 1, l'autre dans le flux numéro 2. Et lorsque je regarde les deux voies qui nous restent à suivre, je vois que la première partie doit être la partie sans différence. Essayer de voir dans quelle partie et où un problème particulier peut être catégorisé. Et ensuite, qu'est-ce qui correspond à la transition de la fonction IANA et qu'est-ce qui permettrait d'être responsable dans ce sens? Et ensuite, quels sont les problèmes qui appartiennent principalement à la responsabilité, à la viabilité d'ICANN à long terme? Lorsqu'on regarde ces deux voies, ces deux flux de travail, et on a tendance à penser que ces deux voies seraient indifférenciées et ensuite qu'elles vont se séparer en deux voies différentes. Alors, maintenant, si ces deux voies doivent être parallèles ou s'il va y avoir des parties dans lesquelles certaines choses doivent avoir lieu avant et dans un flux ou dans l'autre, en ce qui concerne la supervision des fonctions IANA, par exemple, cela dépend de la responsabilité, cela doit être résolu avant certains problèmes qui correspondent au long terme. Voilà, je pense que ce sera une tâche ici à réaliser en premier lieu. Il nous faut construire le tronc de notre arbre avant de le diviser en branches parallèles ou séquentielles. Voilà, c'est ce type donc d'approche que nous devons faire. Hein. Nous avons la TRT, les mécanismes de la TRT qui sont bien, qui doivent être améliorés, mais qui fonctionnent déjà bien. On a besoin de davantage de choses. Commençons ce processus, essayons de voir quelle tâche doit être réalisée et à quelle branche correspond chaque tâche. Merci, Harry. Bruce, il y a eu quelques discussions ici au niveau du conseil et du rôle du conseil. Alors, Bruce Tonkin, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Bruce Tonkin prend la parole. Je dirais que les membres du conseil ont présenté des travaux aux différents groupes cette semaine, mais notre plan est de traiter les recommandations que nous recevons du groupe intercommunautaire de la même façon que nous traitons les recommandations des organisations comme la GNSO et la CCNSO. Et donc, il y a une petite variation dans la façon dont on travaille dans ces deux organisations de soutien. Et donc, je dis, nous allons présenter une résolution qui va donc établir le processus que nous avons l'intention d'utiliser. Et pour vous donner une vision générale de haut niveau, je dirais que si le Conseil pense que une série de recommandations particulières n'est pas dans l'intérêt public mondial, nous allons la renvoyer au groupe de travail intercommunautaire pour qu'il la reconsidère et nous leur expliquerons pourquoi il y a un problème sur ce point-là. Et ensuite, nous organiserons une réunion avec le groupe intercommunautaire pour en parler et pour essayer donc de résoudre le problème. Une chose que nous nous engageons à faire, c'est que le Conseil ne va pas faire des modifications à aux recommandations. Si on pense qu'il y a des changements qui doivent être faits, nous le ferons en accord avec le groupe intercommunautaire, nous en parlerons avec eux et le groupe intercommunautaire devra être d'accord avec les changements que l'on pourrait proposer avant de faire ces changements. Voilà, ce serait principalement les accords que nous allons faire et la façon dont nous allons travailler. Très bien. Donc, dit Matthew Shears, je pense que la liaison du conseil va maintenir tout le monde au courant. Oui, tout à fait, dit Bruce Tonkin. Nous n'avons pas encore ce mécanisme, bien que ce mécanisme existe dans nos statuts pour que le conseil ait la possibilité de rejeter une recommandation d'un groupe de travail, mais nous ne l'avons jamais fait auparavant. Donc, les attentes dans ce domaine sont qu'il y aura donc des réunions publiques, la publication d'un rapport. Les membres individuels du Conseil auront la possibilité de présenter leurs préoccupations à mesure que le processus avance. Donc voilà, nous pensons que ce sera difficile de rejeter quelque chose de ce groupe de travail intercommunautaire, mais on pourra faire quelques modifications. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé et dit Matthew Shears sur la transparence et sur la responsabilité, sur l'importance d'inclure la communauté, les parties prenantes au niveau global. Vous avez la parole. Merci de m'avoir invité. Ambassadeur Benedicto Fonseca, bonjour à tous. D'abord, je voudrais préciser que mes commentaires sont basés sur une position nationale. Ce n'est pas la position consensuelle du GAC et ils se réfèrent aux commentaires que nous offrons pour le processus et ces commentaires sont aussi en ligne. Donc, je ne vais pas me référer trop en longueur sur ce que le Brésil a déjà dit à ce propos, mais je voudrais indiquer que quelle est la destinée, l'objectif de ce processus. Nous sommes tout à fait conscients du fait qu'il y a deux voies différentes. Une qui va travailler avec un calendrier très spécifique et qui est liée à la fin du contrat avec le gouvernement américain septembre 2015. Et l'autre est l'autre voie de travail qui n'est pas qui n'a pas un calendrier très précisé. On sait que c'est un travail avec un objectif à long terme qui va aborder la question de la responsabilité, de la gouvernance. Et des fois, la question de la gouvernance est laissée de côté. Pourtant, c'est un aspect très important de notre discussion, à mon avis. Donc, ces questions seront abordées en deuxième lieu. Notre vision, ces deux processus doivent être des processus convergents. Ce serait une solution idéale que les propositions qui vont être faites en septembre 2015 puissent répondre au problème concernant la supervision de fonction IANA et à l'élément de responsabilité aussi de l'ICANN. Parce que nous pensons que nous sommes dans un moment de fondation, un moment très important pour l'ICANN, dans lequel il y a des aspects de base, des aspects fondamentaux de son travail qui changent. Et je pense qu'il serait insuffisant de travailler sur un seul aspect opérationnel de l'ICANN et de ne pas travailler sur l'autre. Et s'il s'agit de trouver des solutions techniques, au remplacement du rôle de supervision pour les fonctions IANA, mais il faut aussi augmenter notre légitimité et l'améliorer, la renforcer. Et si ces deux processus ne sont pas convergents, nous pensons que nous n'atteindrons pas cet objectif. Nous sommes aussi tout à fait conscients du fait qu'il y a beaucoup de complexité, beaucoup de problèmes liés à la question de la responsabilité, de la gouvernance. Et par conséquent, il est peut-être très difficile d'atteindre cet objectif au mois de septembre 2015 et de trouver une solution générale. Mais à notre avis, ce paquet de décisions qui doivent être prises avant septembre 2015 devrait aborder ces problèmes, les problèmes liés à la transition IANA, les problèmes liés à la responsabilité. Mais aussi, il faudrait indiquer ce qui seront les mesures prises et les actions qui devraient être prises pour améliorer la responsabilité et la gouvernance au sein de l'ICANN. Et je pense que cela devrait être aussi et dépendre aussi d'un calendrier, de façon qu'en septembre 2015, on ait une solution pour résoudre le problème de la supervision de l'IANA, mais aussi que l'on ait des indications sur le futur que nous voulons avoir pour donc aborder et tout ce qui concerne le renforcement de la responsabilité et répondre dans ce sens aux revendications de la communauté. Nous pensons que c'est en ligne avec ce qui a été discuté à Net Mondial. À Net Mondial, nous sommes référés à ce qui est. Je voudrais d'ailleurs citer le deuxième paragraphe quand on a dit que le Brésil pense que le principal objectif de cet exercice est de s'assurer que ICANN soit responsable face à la communauté multipartite après la fin du rôle du gouvernement américain, et les défis seront d'assurer qu'une fois que la transition sera mise en œuvre, les bons contrôles seront en place pour que ICANN puisse correspondre au plus haut niveau de transparence et de responsabilité. Et donc, je pense que cela figure ici, et il y a ici des questions de gouvernance à aborder. Donc, je pense que si nous faisons tout cela, si nous parvenons à mettre en œuvre tout cela, nous allons mettre en œuvre tout ce que Net Mondial avait indiqué comme nécessaire. Et pour nous, ce serait un bon résultat à atteindre donc en septembre 2015. Pour conclure, je dirais que cela peut aussi être très utile pour la communauté académique qui va pouvoir participer, proposer certains modèles, peut-être pas seulement au niveau technique, et aussi pour des problèmes qui demandent une certaine réflexion sur ce que nous ne faisons pas correctement, en ce qui concerne les parties prenantes, en ce qui concerne les droits internationaux. Nous ne passons pas seulement à un modèle basé sur le système des Nations Unies, nous sommes d'accord, nous savons le type d'institution que nous voulons organiser, mais il faut tenir compte de la communauté des parties prenantes qui existe. Donc, comme je l'ai dit, c'est une décision très complexe. Et en septembre 2015, nous devons avoir vraiment une feuille de route, une idée bien claire des temps et des délais à respecter. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Dit Matthew Shears, il y a beaucoup de choses ici à aborder pour donc être responsable envers les parties prenantes et la communauté mondiale. Comment est-ce que l'on parvient à cet objectif? Comment est-ce que l'on s'assure que tous ceux qui participent seront donc pris en compte? Est-ce que vous avez une possibilité, une solution à nous offrir? Ambassadeur Benedicto Fonseca reprend la parole. Je n'ai pas vraiment une réponse. Je pense que c'est la communauté elle-même qui doit participer et décider dans ce sens. Une chose qui a été dite au sein des discussions que nous avons eues, c'est que dans le contexte de la responsabilité, dans cet exercice donc de réflexion, il faut tenir compte des parties prenantes intéressées. Ça va être une discussion ouverte et au cours de cette discussion, ils vont identifier les thèmes qui tiennent à cette ligne de travail pour le, donc 2015. Qu'est-ce qui doit être fait en premier lieu? Qu'est-ce qui doit être fait par la suite? C'est vraiment une approche constructive. Quelque chose que nous allons faire ensemble, comme nous l'avons fait pour Net Mondial. Hein. Nous n'avons pas proposer une solution. Ce que nous essayons de faire, c'est de permettre à tout le monde de participer et pour que la communauté mondiale soit représentée. Merci beaucoup. Steve, vous avez la parole.
Eh bien, oui, ça va être comme un stress test. Ça va être un test qui va nous permettre de voir si nous pouvons bien y arriver. Comment est-ce que cela va fonctionner? Quels sont les besoins? Oui, merci beaucoup. Nous allons passer au transparent suivant. Donc, pourquoi utiliser ces tests, ces essais pour voir s'il y a des scénarios plausibles et difficiles qui te permettent de concevoir des nouveaux mécanismes ou processus? Donc, c'est plausible, ça ne veut pas dire que ce soit probable. Donc, c'est un scénario qui nous permet de tester le système, la solidité du système. Cette idée provient de Singapour, de notre réunion de Singapour. On était d'anciens programmeurs et on a beaucoup d'expérience. On fait des scénarios pour tester la solidité des systèmes, si on a un risque de crash ou pas, si on utilise ce système de manière un petit peu différente. Alors, pourquoi utiliser des tests de stress? Ça nous permet d'être créatifs par rapport à des scénarios à venir plutôt que d'être sur la défensive par rapport à des problèmes passés. Donc, cela ne permet pas de blâmer qui que ce soit. C'est pour cela que nous devons être en mesure de répondre si un problème survient. Ces tests pourrait donner aux critiques de la transition une manière très productive d'exprimer leurs inquiétudes par rapport à la transition pour qu'ils expriment en termes de tests, de solidité, de stress, de résilience et ainsi de suite. Si vous avez vu le Congrès américain travailler, il y avait une personne responsable du département du commerce qui a pensé que c'était une très bonne idée. Ça nous permet de définir l'ICANN de l'avenir. Voilà 10 tests que nous pourrions faire pour vérifier la solidité du système. Nous avons proposé cela en juin et cela fait partie de l'entité constitutive des utilisateurs commerciaux. Matthew ne m'a pas donné de temps, donc je vais en souligner principalement deux. Ceux qui sont en bleu ont trait à l'IANA. Les autres, c'est la responsabilité. Si l'ICANN, d'une manière unilatérale, eh bien, arrête ses accords, eh bien, la discipline qui est imposée par l'ICANN pour obtenir tous les 3 ans le contrat de l'IANA, c'est un fait contributeur. Ça veut dire qu'il ne va jamais annuler l'engagement et le contrat. Mais, qui sait, peut-être qu'un conseil d'administration à l'avenir pourrait faire cela pour plusieurs raisons. Donc, Avery a décrit l'affirmation d'engagement et la TRT qui a été effectuée. Ça, c'est en raison de l'affirmation d'engagement. Si on veut faire partie du cadre de référence de la responsabilité de l'ICANN, nous devons poursuivre cela. Peut-être que l'on devrait enlever la date, mais il y a toujours un accord bilatéral entre l'ICANN et le gouvernement américain. Donc, je suggérerais qu'il y ait véritablement quelque chose de différent au niveau de ces affirmations d'engagement. Ça va être extrêmement complexe. Ça va être un réseau d'affirmations d'engagement. Nous devons changer donc la teneur du règlement intérieur. Donc, le numéro 10, un gouvernement, un ministre des télécommunications dit à l'ICANN de redéléguer ou transférer un CCTLD parce qu'il y avait problème peut-être avec une entité commerciale. Donc, c'est une demande de redélégation d'un ministre des communications. Donc, nous avons les titulaires de noms de domaine qui sont en opposition avec cela. Quelle réponse la CAN et l'autorité de la fonction IANA va donner? Quelle possibilité sera offerte pour répondre à cela? Le groupe de fonction de nommage dans le cadre de l'ICG travaille à cela, y a réfléchi. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons poursuivre pour notre planification. Nous avons des outils, on n'insinue rien, on ne dit pas que le conseil d'administration ne sera pas à la hauteur à l'avenir ou qu'il n'est pas à la hauteur aujourd'hui. On ne dit pas qu'on doit être stressé, on ne doit pas se stresser à cause des tests de stress. Voilà ce que je voulais dire. C'est simplement un outil qui peut être utile pour savoir où nous allons. Donc, désolé de vous avoir forcé à avoir très peu de temps pour représenter. Mais quel est le processus pour ces tests de résistance? Eh bien, ce sont des tests de résistance, surtout pour les fonctions de nommage. Cela ne fait que commencer. Et dans le groupe intercommunautaire pour la transition, pour la responsabilité, c'est le travail, le groupe qui fait commencer son travail de rédaction aujourd'hui même. Donc c'est une recommandation du STAS de faire des tests de résistance et nous insérions ces tests de résistance comme élément. Mais je pense véritablement que c'était à la communauté et au groupe de travail intercommunautaire de parler de ces tests de résistance de manière plausible, de faire des scénarios intéressants qui nous permettent de mieux définir la situation. Je crois que ça vient du CCWG. Oui, Alissa Cooper, nous avons beaucoup parlé de l'ICG. Vous avez une réunion d'ailleurs après celle-ci. Il y a eu parfois des inquiétudes sur les calendriers, les dates limites et comment nous allons pouvoir allier tous les différents éléments à l'ICG. Oui, je serais très heureux de répondre à cela. Je crois que vous êtes bien conscient du fait qu'à l'ICG, en septembre, nous avons fait une demande de proposition pour un plan de transition pour la communauté opérationnelle, pour la zone racine, par exemple. Nous avons un nouveau groupe de travail qui vient de commencer son travail et nous avons les communautés opérationnelles qui travaillent aux fonctions IANA. Donc je crois qu'il est important de souligner qu'il y a plusieurs sections de ces RFP qui posent des questions très spécifiques à la communauté en ce qui concerne la responsabilité de l'ICANN. Donc je crois que nous devons être très concrets par rapport aux attentes de l'ICG et dans le cadre de notre plan de transition. J'aimerais attirer votre attention sur les sections 2, 3 et 4 du RFP. La section 2 demande à la communauté de décrire les arrangements de supervision, les entités qui fournissent déjà une supervision de la fonction IANA, les personnes, comment sont-ils sélectionnés, les personnes qui font partie, comment est-ce qu'on peut les retirer de leur poste, et pose également la question de la description des mécanismes en place pour assurer la responsabilité, la supervision, contrat, audit, vérification. Nous voulons une description d'absolument tout et une description également des conséquences si ces mécanismes montrait que la fonction IANA ne répond pas aux attentes. On demande également une description des juridictions, des mécanismes qui existent au niveau juridique. Donc beaucoup de questions, de détails spécifiques pour les dispositions pré-transition. Donc nous avons d'autres détails pour ce qui va être fait à la suite de la transition, différents aspects. Nous devons comprendre ce que la communauté veut modifier par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et dans la section 4, nous demandons à la communauté de détailler les implications et les conséquences. C'est ce que disait Steve. Nous voulons comprendre quels sont les critères opérationnels pour la transition. S'il y a des risques de continuité opérationnelle, on doit se pencher sur le cadre juridique également. Nous voulons également évaluer le fait que ce plan est tenable et la mise en œuvre du plan, les grandes dates, les principales dates importantes. Donc il y a beaucoup de détails que nous demandons de la part de la communauté pour les fonctions de nommage. Ces informations doivent fournir du groupe de travail cross-communautaire. sur le nommage, mais ça va se chevaucher. Le travail de tous ces groupes, qui est fait parfois un petit peu en isolation. Donc nous avons besoin de dates limites pour recevoir ces propositions de la communauté opérationnelle d'ici janvier 2015. C'est bientôt, mais cela donne quelques mois pour faire le travail. Et on entend parler de cette transition depuis de nombreux mois également. Donc on ne part pas de zéro. On a déjà fait du travail, on a déjà œuvré à cela. Donc ce n'est pas un point de vue de l'ICG, mais au niveau de l'IETF, nous travaillons pour les protocoles et les paramètres. Nous avons un plan de travail qui existe. Nous avons des entités séparées qui ont l'habitude de travailler à des contrats, travailler aux juridiques, aux questions juridiques qui se posent. Donc dans le plan de transition, dans nos groupes de travail, nous voulons demander à ces entités de travailler également à la responsabilité. Tout cela est dans le plan de transition. Ce n'est pas obligatoirement le cas. Tout le monde n'aura peut-être pas terminé au 15 janvier, mais nous avons besoin de travailler et de recevoir à l'ICG toutes ces propositions. Et nous devons peut-être aller plus loin sur le travail concernant la responsabilité. Et nous espérons faire un maximum avec le travail reçu de tous les groupes de travail en janvier 2015. Merci beaucoup, Alyssa Cooper. Donc, la NTIA a établi des critères qu'il faut prendre en compte. Où est-ce que ça rentre en ligne de compte dans le processus, ces critères ? Oui, en effet, il y a une section supplémentaire du RFP qui demande à la communauté de décrire comment leurs plans et processus ont répondu aux critères NTIA. Lorsqu'on a reçu les propositions de la communauté, il y aura une évaluation de cette section pour déterminer si les explications fournies par la communauté sont suffisantes. Si ce n'est pas le cas, s'il y a un manque à ce niveau, on aura besoin de clarification. On renverra la proposition à la communauté pour qu'elle soit revue ou rectifiée. Merci beaucoup, Alyssa. Finn, pourriez-vous nous donner une perspective sur l'association danoise et qu'est-ce que vous aimeriez voir, quelles seraient les étapes? Donc, Finn Peterson, de l'autorité danoise, autorité commerciale. Oui, j'aimerais souligner, je ne suis pas un porte-parole du GAC. Je suis du GAC, mais je ne suis pas porte-parole. Je suis du gouvernement danois. Je vais donner la perspective sur ce problème. Je crois que c'est un moment historique que nous vivons véritablement. Nous avons un sujet très important pour les télécoms, pour les agences de régulation. Ça fait 35 ans qu'on n'avait pas vu cela. C'est un des points les plus importants, vraiment, de ces dernières décennies. Et c'est un des points aussi les plus difficiles à régler. Donc, tout d'abord, la transition de l'IANA et la responsabilité doivent aller main dans la main. Et selon nous, nous avons des difficultés pour une transition sans responsabilité. La première grande question qui se pose, c'est la question de la responsabilité. Nous devons avoir une feuille de route solide pour atteindre cette responsabilité. Nous n'avons pas encore une vue très claire de toute la situation, mais je crois qu'une vue plus claire va émerger rapidement. Il y a un rapport entre les deux points, entre le côté responsabilité et le reste de la transition technique NTIA. Donc, j'espère que ces deux voies dont on a parlé tout à l'heure nous permettront d'avancer rapidement. Mais la transition IANA est de nature technique. C'est évident. Mais ce n'est pas ça ce qui nous inquiète le plus. Ce n'est pas l'aspect technique. Il y a des gens très capables, compétents et qualifiés pour gérer la technique. Je crois que j'aimerais parler plus de ce qui préoccupe notamment les gouvernements. Nous avons eu cette définition de la responsabilité avec un équilibre, avec la possibilité d'avoir des mécanismes d'analyse, de revue et de responsabilité. C'est ce que nous voulons voir dans ce processus avec des conseillers, avec des modèles qui existent déjà pour d'autres entités. Donc, comment on peut séparer les fonctions de l'IANA, de l'ICANN, supervision de l'ICANN possible, supervision en tant que telle, tout cela est positif, selon moi. La communauté pense que nous devons avoir une supervision qui, indépendante, supervision modeste, qui ne soit pas une supervision qui provienne des gouvernements. Donc, nous devons avoir des personnes en qui nous avons confiance, qui puissent auditer, vérifier, superviser le fonctionnement. Le conseil d'administration doit jouer un rôle dans ce cadre. Nous devons avoir une entité en laquelle on a totalement confiance pour la supervision. Nous avons besoin de mécanismes de remédiation qui soient très solides pour les CCTLD où nous avons eu des problèmes, nous l'avons vu, pour des GTDLD, tous les mécanismes n'ont pas toujours bien fonctionné. Donc ce qui est très important pour nous également, c'est que nous sommes très conscients de la décision du gouvernement américain, mais on ne doit pas se retrouver dans une situation où il y a une capture de ces fonctions, que ces fonctions soient capturées par des groupes commerciaux, par des gouvernements. Aucune entité ne devrait être en mesure de capturer et d'accaparer ces fonctions. Donc l'envergure de l'ICANN est limitée, sans expansion. Elle doit rester telle qu'elle est aujourd'hui, cette envergure de l'ICANN. La portée de l'ICANN doit rester la même. Ça, c'est absolument essentiel. L'AOC, également, joue un rôle très important et doit être conservé. L'aspect multilatéral doit être dans le règlement intérieur d'une manière très claire. C'est quelque chose qui ne doit pas être annulé, mais qui doit être poursuivi. Nous avons également les CCTLD au Danemark. Nous allons redéléguer le CCTLD et nous avons un processus très difficile. Le gouvernement danois a connu des problèmes. Nous avons dû expliquer les choses, communiquer avec la communauté. Ce n'a pas été un processus aisé. Il y avait des règles nationales, des règlements nationaux qui peuvent rentrer en ligne de compte, les lois du pays qui rentrent en ligne de compte. Et enfin, comme vient de l'expliquer Steve, ces tests de résistance sont très importants. Il ne s'agit pas de code, il ne s'agit pas de logiciel. Ce sont des tests de résistance de l'organisation, de la manière dont fonctionne l'organisation. C'est ça sur lequel nous devons faire des tests résistance. Vous savez que la politique est en grande mouvance dans le monde entier. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas des intérêts qui essayent de capturer donc la gouvernance de l'Internet. Voilà notre perspective. Merci beaucoup de cela, c'est très apprécié. Une petite question. Il semble qu'au Danemark, il y a un très bon mécanisme de sensibilisation avec les autres acteurs de la gouvernance de l'Internet. À quel point est-ce important? Et est-ce que le gouvernement est en mesure de travailler avec les différentes parties prenantes et de bien communiquer avec les autres parties prenantes? Oui, eh bien, je crois que, en ce qui concerne la perspective du gouvernement, la sensibilisation est essentielle, pas seulement pour l'Internet, mais nous sommes, en tant que gouvernement, les politiciens danois ne sont pas là pour avoir réponse à tout. Nous devons être motivés et nous devons écouter les différents points de vue et être prêts, lorsque nous prenons des décisions, à être prêts à expliquer notre processus de prise de décision, le pourquoi de la décision. Donc, en gouvernance de l'Internet, nous avons un groupe avec qui nous débattons. Nous l'avons rencontré avant la réunion de l'ICANN, nous le reverrons après cette réunion. Donc, le gouvernement n'a pas réponse à tout, fait partie simplement d'un travail, d'un processus de travail qui permet de trouver des solutions. Merci beaucoup. Oui, Kiss, merci d'être venu. Kiss Drazek, vice-président à VeriSign. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kiss Drazek. Je travaille à VeriSign. Je suis au niveau du registre. Je travaille au GNSO et je remplace Jonathan Robinson qui a eu un conflit et qui est désolé de ne pas pouvoir être avec nous ce matin. Donc, je crois que j'aimerais simplement prendre quelques instants pour parler des nouvelles étapes, des prochaines étapes. C'est urgent, ce processus de responsabilité, de responsabilisation de l'ICANN. J'aimerais remercier le personnel de l'ICANN et le conseil d'administration de l'ICANN d'avoir répondu de manière favorable pour avoir un groupe de travail intercommunautaire. Je pense que maintenant nous avons un processus en lequel nous pouvons avoir confiance avec ce modèle ascendant pour des recommandations sur les réformes dans le cadre de la responsabilité de l'ICANN. En tant que communauté, nous devons travailler véritablement à nos processus, faire un travail substantiel pour développer par consensus un modèle ascendant. J'aimerais donc dire que les GNSO préparent les représentants au groupe de travail intercommunautaire chargé de la rédaction d'un rapport travaillant avec les autres SO et AC pour une charte pour ce groupe de travail. Nous avons un cadre de travail que nous pouvons déjà utiliser, ce cadre de référence. Vous savez que nous avons un groupe de travail sur la transition de la supervision de l'IANA. Donc il y a à la fois la transition de la supervision de l'IANA. Nous allons former un groupe intercommunautaire sur la responsabilité de l'ICANN. Donc, petite pause à ce niveau et m'assurer que tout le monde comprend bien que ces groupes de travail intercommunautaires sont ouverts à toutes et à tous. C'est absolument nécessaire. Si cela vous intéresse, si ces deux processus vous intéressent, qui sont interdépendants, qui sont en rapport l'un avec l'autre, alors exprimez-vous, rejoignez-nous, allez vous inscrire sur la liste de diffusion parce que nous travaillons avec un modèle ascendant et il faut faire entendre votre voix rapidement. N'attendez pas, parce que le calendrier est très serré. Engagez-vous donc, participez. Notre charte du CCWG va beaucoup nous aider. Beaucoup a déjà été effectué. Nous avons utilisé, dans notre cadre de référence, des éléments que nous avions déjà. Nous avons changé quelques points. Il me semble qu'on va pouvoir gérer tout cela. Nous sommes confiants. Donc, un point clé pour l'équipe qui va rédiger la charte, ça va être la portée dont vous avez dit, la portée ou l'envergure dont a parlé Avery. NTIA et ICANN ont encouragé deux voies dans le processus responsabilité. Deux voies, un pour la transition de la supervision de l'IANA et il y a une autre voie. Il y a eu deux sous-voies, deux. Une pour la réforme nécessaire de la transition de la supervision des fonctions d'IANA et d'autres améliorations qui pourraient attendre, qui sont moins urgentes, qui ne sont pas interdépendantes, qui pourraient être gérées par d'autres processus qui existent déjà dans la communauté, comme ATRT 1, ATR 3, ATRT 3, pourquoi pas. Et donc, une question clé qui se pose pour cette équipe qui rédige la charte, une fois formée, ce sera de comme où est-ce que l'on va voir la ligne, où est-ce qu'on va placer la ligne qui va délimiter les deux. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui est nécessaire maintenant? Qu'est-ce qui peut attendre un petit peu plus tard? Il faut absolument déterminer cela et développer des processus pour déterminer cela. Il est absolument essentiel de gérer ces questions maintenant pour cette charte. Donc, pour conclure, au nom du GNSO, nous serons très contents de travailler avec toute la communauté pour avancer dans cet effort de réforme de responsabilité. Nous allons travailler en temps et en heure pour atteindre la date cible du 15 septembre 2015. Et donc, vous savez, c'est une date importante. On nous dit parfois que l'on peut reculer cela, mais l'essentiel, c'est que nous ayons cette cible à atteindre, cette date limite de septembre 2015. Donc nous devons donner des recommandations en temps et en heure et des recommandations de qualité. Merci beaucoup. Merci, Kiss. Pour revenir sur un point, le processus est ouvert pour tous. Donc comment s'assurer que toutes les voix puissent se faire entendre, la communauté de l'ICANN et éventuellement d'autres personnes? Oui, merci. Merci beaucoup, Matt. Si j'ai bien compris la question, nous avons une communauté de l'ICANN qui a une structure, qui a des groupes, et nous devons, en tant que communauté, en tant que groupe indépendant, être sûrs que nous faisions de la sensibilisation, que nous tendions la main à d'autres groupes et que nous ayons des mécanismes, des voies pour que d'autres personnes qui ne font peut-être pas partie de notre communauté puissent avoir voix au chapitre, puissent participer à la discussion. Et ce que je pense de cela, c'est que je crois que tout le monde peut trouver dans notre modèle multipartite sa place. Je crois que nous avons un système robuste, une communauté, une structure communautaire solide. Je crois que tout le monde peut trouver sa place, mais ne sait pas où se trouve cet endroit. Ne sait pas choisir où participer, par quel biais participer, comment se situer au sein même du processus. C'est pour ça que nous avons besoin de voies d'entrée, d'opportunités, notamment pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne connaissent pas encore bien le processus. Merci.
Merci beaucoup, dit Mathieu Schulz. Je voudrais d'abord vérifier, est-ce que Brian veut se joindre à nous? Brian, est-ce que vous nous entendez? Brian est un participant à distance. Brian Cute, membre du groupe d'experts. Est-ce que vous voulez nous donner une mise à jour et concernant votre groupe d'experts et le travail qu'il a réalisé? Oui, la tâche de ce groupe était donc terminée au mois d'octobre donc 2014. Notre objectif était de clarifier entre nous ce que nous pensions comme problèmes principaux à aborder pour donc évaluer et sélectionner les conseillers et en session fermé, nous avons commencé à voir les noms des candidats et nous avons analysé leur CV de manière à passer à la première partie de cette sélection, faire une évaluation des candidats et préparer ce processus qui va donner lieu à la sélection des candidats qui devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre. En ce qui concerne les critères, les domaines d'expertise sur lesquels nous nous focalisons. Il y a un résumé de la réunion qui va être envoyé plus tard aujourd'hui. Nous sommes parvenus à 5 groupes de domaines d'expertise qui sont les suivants. D'abord, gouvernance du conseil et gestion d'entreprise. par exemple finance ou gestion de risque. Ensuite, la gouvernance et la transparence. La transparence et la responsabilité globale. Ensuite, des outils pratiques et théoriques, les indicateurs. Ensuite, en troisième lieu, les éthiques, les cadres de travail d'éthique mondiale et les droits humains pour, par exemple, la protection des consommateurs et le travail, la participation des gouvernements et les relations avec dans le domaine de la gouvernance multipartite. Ensuite, la loi, la législation internationale et la jurisprudence, par exemple, le choix de loi. La raison pour laquelle nous avons pris cette direction dans notre travail, c'est parce que nous avons reconnu qu'il y a certains domaines d'expertise dans lesquels il serait très, très important d'augmenter notre travail pour s'assurer que tout a été fait et que tous les aspects ont été abordés. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, par exemple, un des termes que j'utilisais dans le passé était les personnes qui venaient de l'extérieur. Et personnellement, je lutte contre ce mot parce que je pense que la plupart d'entre nous sont des personnes qui, comme Steve l'a dit, pensent que le processus d'ICANN doit être ouvert. Et l'exemple que nous utilisons est que le domaine d'expertise ne dépend pas du fait que l'on appartienne ou pas à la communauté de l'ICANN. Dans la TRT 1, dans le rapport de la TRT 1, lorsqu'on a abordé la question de la structure du Conseil, de la gouvernance du Conseil, de l'opération du Conseil, lorsque nous nous sommes demandé comment améliorer la structure et la qualité du rôle de ces directeurs de ce conseil d'administration, dans nos conversations, nous avons donné comme exemple ou analysé une organisation en Australie qui est un groupe de directeurs corporatifs, et cette organisation se focalise sur les meilleures pratiques. Et pour les conseils d'administration d'entreprise. Et nous avons analysé cela parce que nous essayons de voir si le groupe des directeurs nommés est un bon système pour le conseil de l'ICANN. On en a parlé. C'était une recommandation de la TRT 1, mais c'est le type d'exemple, l'exemple concernant le type d'expertise qui pourrait être disponible au sein de la communauté de l'ICANN et qui pourrait être importante dans le processus général. Donc, pour conserver cet exemple, justement, pour prendre cet exemple, nous avons défini que les 5 secteurs, les 5 domaines d'expertise nécessaires étaient les domaines dans lesquels nous allions nous focaliser pour donc évaluer les candidats qui ont été sélectionnés qui ont été sélectionnés par notre groupe de travail. Bien, Brand, merci beaucoup. Si vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de la session, dit Matthew Shears, il y aura des questions peut-être qui vous seront adressées. Eh bien, vous avez un micro ici. Si vous avez des questions, allez-y, approchez-vous du micro et posez vos questions. D'abord, je voudrais demander s'il y a des questions des participants à distance. Bien, il n'y en a pas. Donc, s'il vous plaît, donnez votre nom, soyez bref et dites à qui vous adressez votre question. Merci beaucoup. Je suis Olivier Muron. Je suis un membre de IPCP et je parle en mon terme, en mon nom. J'ai une question concernant ces deux voies sur la responsabilité et je pense qu'il n'est pas facile de comprendre si on prend la liste de tous les aspects qui ont été proposés, la liste qui a été recueillie, qui a été faite par le personnel de l'ICANN. Si l'on voit les solutions proposées, des fois c'est clair, On voit que ces solutions vont être dans la voie 1 ou dans la voie 2, mais parfois c'est plus difficile de dire. Un autre point, c'est la faisabilité légale de ce type de solutions qui sont proposées et le calendrier pour que ces solutions soient mises en œuvre me paraît un peu compliqué aussi. Donc, de fait, je suis d'accord avec ces deux voies, ces deux flux de travail, mais je pense qu'il faut voir, parce qu'ils sont très liés l'un l'autre, et donc il faudrait qu'il y ait une approche très claire, qu'un thème rentre dans une voie et l'autre dans l'autre voie ou dans l'autre flux. Et je pense qu'il faut que cette question donc des deux flux ou des deux voies soit bien établie. Voilà, c'était un commentaire général pour les personnes du panel. Steve, vous voulez répondre? Merci pour cette question, Olivier. Les mécanismes de responsabilité potentielle présentés par le personnel cet été ne sont pas et ne représentent pas la liste complète de mesures que ce groupe de responsabilité va aborder. Mais il faut voir la question de voir comment est-ce que les choses vont être associées ou rentrer dans quelle catégorie, dans quel flux de travail. La communauté doit travailler là-dessus et je propose qu'on choisisse un peu ce que les commentaires de la majorité proposent ou établissent, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le premier flux, la voie 1, les mécanismes qui doivent être abordés, peut-être pas mis en œuvre complètement, mais engagés, abordés avant la transition, et l'autre voie, l'autre flux de travail, post-transition. Voilà, je pense que c'est une question de levier. Les mesures à prendre avant la transition sont les mesures qui sont extrêmes et qui donc dépendent de la communauté et de la gestion du conseil. Le conseil, on va voir s'ils acceptent ces décisions. Donc je pense qu'ici, c'est une question de levier, de faire pression. Ici, les choses sur lesquelles nous avons besoin de faire davantage de pression devront être plutôt dans le flux numéro 1 ou dans la voie numéro 1. Bien, merci. Je voudrais répondre à un point qui concerne la faisabilité et voir si les solutions proposées seront toutes applicables, dit Bruce Tonkin. Je pense que certains aspects sont liés à des choses qui ont été mises en œuvre et qui existent déjà. Des choses qui ont été faites et qui ont fonctionné. C'est pour cela que nous voulons avoir aussi une expertise venant de l'extérieur pour connaître ce type de choses qui ont fonctionné. Avery Doria, je voudrais faire un commentaire sur l'interaction entre les deux voies, entre les deux flux. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai tendance à penser à ces deux voies comme deux choses séquentielles. Mais je suis d'accord avec vous que si ces deux flux, ces deux voies ne sont pas séquentielles, la capacité de transférer un problème d'une voie à l'autre va être importante. Steve, je voudrais reprendre ce que Bruce a suggéré. Je crois qu'on a besoin, dit Steve Del Blanco, je crois que nous avons besoin d'experts extérieurs qui nous aident, qui nous disent exactement de quoi il s'agit, mais je pense qu'il ne faut pas que ça vienne seulement du groupe d'experts publics. C'est un groupe de travail ouvert de la communauté et donc c'est ouvert à nous tous et pas seulement aux experts, à tout le monde. Nous devons entrer dans ce groupe de travail et contribuer. Merci beaucoup. Nous avons très peu de temps, dit Matthew Shears, donc nous allons clore la ligne après Milton. Les personnes qui sont déçues, nous nous excusons, nous n'avons pas le temps. Prochaine question, Jonathan Zoe. Je pense que Steve, ici, ce qu'il faudrait ajouter dans votre liste, vous avez la transition Yana, etc., mais je me demande, est-ce que ces tests de résistance s'appliquent à avant la transition Yana, après la transition Yana? Il est aussi possible que certaines choses qui rentrent dans le premier flux fassent l'objet de engagement important pour la suite après la transition de la fonction Yana. Merci. L'unité constitutive de commercial propose 6 mesures et il propose un groupe de travail permanent des Steve Del Bianco. Donc, il considère un groupe de travail permanent dans lequel toutes les unités constitutives, les membres, les GAC, etc., nommeraient des membres. Hein, et le BC a suggéré que ce groupe aurait la possibilité d'envoyer des membres au panel de révision et au panel de révision indépendante. Et ce groupe devrait être capable de réviser et d'approuver le budget d'ICANN tous les ans. Et le groupe de travail intercommunautaire devrait analyser les statuts. Et si le conseil ignore le groupe de travail intercommunautaire sur ces questions, et ces groupes pourront décider de déterminer que les membres du conseil seront remplacés. Il y aura de nouvelles élections par chaque groupe et chaque unité constitutive. Donc c'est un exemple qui montre qu'on a différentes idées et les unités constitutives veulent voir une discussion avoir lieu avec des choses qui, à notre avis, rentrent parfaitement dans cette voie de pré-transition. Et correspondent à ce travail de pré-transition. Merci beaucoup, Malcolm Hattie. J'interviens moi-même en tant que personne. Je voudrais réagir face à ce qui a été dit. J'ai détecté un consensus en cours de développement concernant les questions de responsabilité. Et il faut identifier ce qui doit être abordé avant la transition, même si la mise en œuvre de ce qui a été identifié et pourrait être appliqué après la transition. Je suggère que les points les plus essentiels, la priorité numéro 1, est la responsabilité du Conseil pour agir dans le cadre de la mission d'ICANN qui est limitée et de répondre à ses valeurs clés. Et à l'extérieur de la portée de la vision de l'ICANN, est-ce qu'on pourrait définir aussi cette vision pour que toute la protection de la responsabilité soit quelque chose dont on tienne compte? Actuellement, ICANN dépend du gouvernement américain pour ses principes de base et cela risque d'affecter la façon dont le contrat des fonctions IANA sera réalisé. Il y a des mécanismes qui affectent le fait que le conseil d'ICANN peut être responsable face à la communauté ICANN. Il y a des missions et des valeurs qui figurent dans les statuts et je pense que l'NTIA, tel que je le comprends, a identifié cela. L'annonce originale disait que toute proposition de transition devait aborder quatre principes. Le soutien et le renforcement du modèle de multipartite. Et le quatrième était de maintenir l'ouverture de l'Internet. Ces deux principes vont au-delà du problème d'opération des fonctions IANA et beaucoup de notre communauté se focalise là-dessus et demande que l'on aborde cela. Mais la transition ne peut pas inclure tout ce que tout le monde voudrait faire dans le domaine du modèle multipartite ou maintenir l'ouverture de l'Internet. Par conséquent, je propose que la meilleure manière d'aborder ces prérequis identifiés par l'NTIA comme étant essentiels pour tout objectif de transition est de s'assurer qu'il y ait des mesures qui soient obligatoires et que si le Conseil ne répond pas à ces valeurs devront être modifiées et adopté au niveau consensuel. Case, est-ce que vous voulez répondre à cela? Oui, merci, c'est Case Drazing. Je vais parler en mon propre nom, je suis d'accord. Quelqu'un de plus, Steve? Soyez bref, je vais être bref. Vous avez remarqué que lundi matin, Fadi Shaheda a parlé d'une nouvelle stratégie pour définir l'intérêt public pour maintenir une portée limitée. Et je pense que le scénario numéro 4, c'est exactement ce que vous avez décrit. Si l'on regarde d'ailleurs sur le site, vous avez le scénario numéro 4. Et on propose plusieurs manières de résoudre ce problème. D'abord, approuver le budget. Ensuite, le panel de révision qui va voir les décisions et présenter ces décisions à la communauté. Si on n'est pas d'accord, à ce moment-là, le conseil sera dissolu. Si la question peut être brève, s'il vous plaît, ce serait bien. Bill Smith, allez-y. Premièrement, je voudrais faire un commentaire sur la fonction IANA et je voudrais voir le document. Je voudrais qu'on parle ici du document et de fondation du SAC 67 et 68. C'est un document très utile qui me présente les prérequis. Je pense qu'il nous faut considérer la nature minimale de ce contrat. il y a très peu de choses dont Yana est responsable, il faut le dire. Et de nouveau, je suggère que la nature du contrat suggère et que l'on tienne compte de la complexité interne des accords de supervision des fonctions Yana. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il faut tenir compte de cela. Ensuite, j'ai une question concernant la responsabilité, et puisque c'est le thème de cette session, et l'équipe de révision a travaillé il y a 4 ans, ATRT1 a travaillé là-dessus, et ce groupe devait faire des révisions basées sur un cycle de 3 ans. Et c'était ce qu'on avait dit à l'époque. Alissa, vous voulez prendre... Oui, Alissa Cooper, le sac 67-68, si vous ne les avez pas lus, sont très, très intéressants. Hein, si vous devez les lire. Vous devez lire le rapport de sac 68. À propos de la révision Ruiz, oui, il y a eu une affirmation d'engagement sur 3 ans et je pense que ça va repartir, dit Bruce Tonkin, en se basant sur cette révision particulière. Il y a eu une série de changements depuis la dernière révision, mais oui, je ne m'attends pas à ce que cette équipe de révision puisse faire cette révision dans les temps voulus et je ne compte pas trop sur l'effectivité de ces changements. Une question à distance, notre plateforme à distance. Je vais lire la question de la plateforme de Kiev, si vous me le permettez. Donc, la plateforme de Kiev présente la question suivante. À Londres, on a proposé de renforcer le rôle de l'Ombudsman pour la transparence de l'ICANN. Est-ce qu'il y a eu des progrès dans ce sens? Ensuite, il y aura une autre question de Trinité-Tobago, si vous me le permettez. Bien. Je pense que c'est une très bonne question, dit Holly Wright, et j'aimerais connaître la réponse, mais c'est une des choses qui était dans les recommandations de la TRT2. Le Conseil a dit qu'il soutenait ces recommandations. Et donc, quelque chose qui pourrait être inclus dans les améliorations et les problèmes liés à la responsabilité. Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Avery. Prochaine personne. Bonjour à tous. Je suis Andrew Thompson. Et je travaille dans le groupe de travail sur la sécurité et la stabilité de l'Internet. Et j'ai regardé le rapport de la TRT et j'ai remarqué que à la page 56, il est dit que le groupe de responsabilité ne devrait pas être un groupe, à mon avis, séparé de l'ICANN, parce que si on veut dire quelque chose aux membres du Conseil, ce n'est pas possible, puisque... Et l'autre point de la TRT2, du rapport de la TRT2 qui me paraît intéressant ici s'appliquer et concerne la page 41, les engagements du GSE, parce que finalement le GSE a fait des suggestions concernant les problèmes financiers pour donc analyser justement la question de la responsabilité de l'ICANN. Et il y a des commentaires publics qui ont lieu actuellement sur la même question et ce serait un petit peu notre préoccupation ici. Merci beaucoup. Qui veut répondre à cette question, dit Matthew Shears? Je pense que la question ici concerne la mise en œuvre des recommandations de la TRT2, dit Bruce Tonkin. Le Conseil a approuvé ces recommandations. Elles vont être mises en œuvre et le personnel de l'ICANN va faire nous tiendra au courant de l'évolution de cela. Et Holly Wright, je voudrais ajouter un petit mot ici. J'avais pensé d'inclure cela dans ma présentation originale de la TRT2 et des points qui devaient être considérés dans ce rapport de la TRT2. Comme je l'ai dit avec la question préalable, je pense qu'ils appartiennent aussi à cette formule, hein, et je pense que le groupe de transparence devrait aborder ces questions. Merci. Merci, John Caron, président et PDG de ARIN. J'ai une question pour M. Del Bianco. Je voudrais demander un petit peu de clarté parce que nous nous inquiétons un petit peu pour voir si nous avons une position dans la responsabilité de l'ICANN. Et je ne sais pas si vous avez une position à ce propos. Et personnellement, je pense que vu les défis qui existent dans ce domaine, il serait peut-être utile, et je demande si c'est possible de le faire, que lorsque vous faites ce test de résistance, vous pensiez non pas à ICANN aujourd'hui, mais comme ICANN est quelque, dans le futur, comme par exemple essayer d'identifier les opérateurs des fonctions IANA comme opérateurs de fonctions IANA, même si c'est ICANN, et identifier un organe de politique comme un organe de politique, hein, et le personnel d'ICANN et le conseil de l'ICANN comme le conseil de l'ICANN. Parce que un test de résistance que j'ai identifié, c'est que, un exemple, le conseil d'administration décide de faire des politiques que le DNS et la politique de et la communauté du DNS ne veut pas. Ce serait différent que du fait que le conseil demande au personnel de mettre en œuvre des politiques d'une manière différente. Et c'est différent aussi du fait que le directeur du le directeur ordonne, le conseil d'administration ordonne quelque chose au, à l'opérateur des fonctions IANA. Donc on a différentes possibilités, ce sont des cas différents et je pense qu'il faut toutes les aborder. Bien, Steve Del Bianco, s'il vous plaît, envoyez-nous des scénarios et des tests de résistance, ça nous intéresse. Je n'ai pas dit ICANN, j'ai dit l'entité responsable de la zone racine. Donc, je n'ai pas parlé de ICANN. Mais si vous avez des tests de résistance à nous envoyer, envoyez-les-nous. Ça nous intéresse. Je vous recommande de tenir compte de différents cas. Merci.
Oui, nous devons être très brefs maintenant. Oui, j'appelle James Bledel et je parle en mon nom personnel. C'est au sujet de ces tests de résistance, une nouvelle fois, Steve. Je lis cela, j'ai pris cela en compte et je comprends le concept. C'est intéressant, c'est une partie essentielle de la proposition de la communauté. Mais je les lis, ces tests de résistance, et je ne comprends pas toujours comment nous sommes protégés de ces scénarios, même maintenant, dans la situation actuelle. Donc, pourquoi est-ce que cela compte? On n'essaye pas de regarder en arrière dans le passé. C'est quelque chose où on voit... Non, mais on retire la transition de l'IANA. Comment ça nous protège des problèmes de l'ICANN qui pourraient être insolvables, par exemple? Alors, ces tests de résistance, comment devraient-ils être inclus dans la voie essentielle de l'IANA? Donc, on a le modèle actuel. Donc, ça n'a rien à voir, Steve Del Bianco, avec ce que l'IANA fait aujourd'hui. Ça a à voir avec ce que nous pouvons faire pour avoir des mécanismes de responsabilité à l'avenir, pas avec le conseil d'administration actuel, mais à l'avenir, avec un conseil d'administration futur. C'est la présence d'un papier actuellement qui n'existera plus, puisqu'il n'y aura plus de rapport avec la fonction IANA, il n'y aura plus de contrat. Donc, apparemment, le plus important, c'est le premier. James, au micro. Donc, si ICANN n'acceptait pas l'accord à venir, donc c'est pour ce que a dit Malcolm. Comment est-ce que le conseil d'administration est responsabilisé par rapport à sa tâche et à sa fonction? Merci. Oui, merci Matthew Shears. Rien d'autre à distance. Oui, nous avons une question de Robert Takus par rapport à la participation pour la responsabilité de l'ICAM et son groupe de travail. Les participants externes n'étant pas affiliés, auront-ils la possibilité de travailler également? Oui, alors, Keith Drizak au micro, oui, c'est exact. Le groupe de travail intercommunautaire, que ce soit pour la transition de l'IANA et la responsabilité, seront ouverts à des participants externes qui ne sont pas encore identifié avec une structure en tant que telle. On est en train de travailler au détail, mais des personnes externes pourront travailler au process. Absolument. J'appelle Ovalish Knoben. Je suis du GNSO et membre également de l'ICG. Donc, les deux voies, c'est de plus en plus clair maintenant, après tout ce qui a été dit. Et ce qu'on a entendu ce matin, c'est très bien, c'est positif, mais d'un autre côté, il me semble que pour ce qui a trait à la responsabilité, ça c'est en rapport avec la commission de nommage, la communauté de nommage et les différents panels. Donc je vois qu'il y a quelqu'un de la communauté technique, une personne, Alissa, qui représente la communauté technique, qui est sur cette table ronde. Mais en fin de compte, l'ICG doit délivrer une proposition commune au conseil d'administration de l'ICANN, à la NTIA, qui comprend le point de vue responsabilité en rapport avec le nommage et en rapport avec tous les aspects techniques. Donc ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, c'est que dès le début, la communication nécessaire entre ces différentes parties techniques, responsabilités, et l'impact de la recommandation qui proviendra du groupe de travail intercommunautaire, il est absolument nécessaire donc que la communication commence le plus tôt possible et qu'on ne se retrouve pas en fin de compte avec trois boîtes en quelque sorte que nous recevions qui ne soient pas en rapport les unes avec les autres. Il faut que ça soit vraiment une proposition commune. J'exprimais donc mon inquiétude à ce sujet. Alissa, oui, merci beaucoup. C'est une excellente distinction et j'aimerais réitérer le fait que le RFP du ICG a demandé à toutes les communautés de détailler les mécanismes de supervision et de responsabilité, que ce soit pour la CAN ou autre. On y a travaillé cette semaine. Si on parle spécifiquement de la responsabilité de la CAN, c'est une chose, on peut avoir des rapports de supervision avec l'ICANN, mais il y a d'autres entités, d'autres mécanismes qui leur permettent de faire en sorte que les opérateurs de la fonction IANA soient responsabilisés. Donc, en effet, ça doit tout couvrir, tous les mécanismes de responsabilité, en effet, en rapport avec l'ICANN et autres. Et cette proposition, la portée de la proposition, doit être spécifique à l'ICANN. Mais dans le groupe de travail, nous devons en effet régler tous les problèmes qui sont plus larges. Sébastien.
Sébastien Bacholet, membre du board de l'ICANN pour encore quelques heures. Je vais parler en français, comme vous pouvez le voir. My Flip, non, c'est mon nom, my name. Deux points. J'ai l'impression que cette organisation ne se fait pas confiance. Quand on essaye de dire qu'il faut qu'il y ait un autre groupe qui surveille l'autre groupe, qui surveille un autre groupe. Le board, il est déjà un multi-acteur, une organisation multi-acteur. Vous élisez le board. Donc s'il faut un autre un organisme multi-acteur à côté pour surveiller le premier, on peut en créer 50 000 comme ça, et jusqu'où on va? Vous avez la possibilité de ne pas réélire les membres du board actuel, vous l'avez fait, certaines parties de l'organisation l'ont fait, et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autre chose. Mon deuxième point, c'est que je suggère que l'on commence RTRT3 le plus rapidement possible pour prendre en compte tout ce qui ne serait pas dans la comptabilité nécessaire pour la transition de la fonction de la fonction IANA ou de son contrôle, et de le commencer en vérifiant qu'on a toute la latitude pour effectivement prendre en compte tous les éléments liés à la comptabilité. Il n'y a pas vraiment de mot en français pour ça, en dehors de la transition. Merci beaucoup.
I just wanted to give a quick response. Oui, je voudrais répondre rapidement. Je ne peux pas vous répondre en français, hélas, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Sébastien, et c'est en effet, on repart en arrière. La responsabilité semble repartir en arrière. On rajoute des groupes de supervision. Qui est responsable par rapport à qui? Et on superpose un petit peu des couches. Nous avons déjà, en effet, le conseil d'administration, la responsabilité de tous ses membres, et je suis d'accord, nous sommes en train de créer un groupe de travail autre que le conseil d'administration, qui est en lui-même un groupe intercommunautaire. Oui, merci beaucoup, Sébastien. J'aimerais répondre avec vous. J'aimerais vous répondre également. C'est prématuré à cette étape d'arriver à une conclusion disant que nous devons avoir une entité externe qui supervise l'ICANN, qui fasse partie du mécanisme de responsabilité. Moi, je crois que ça doit être débattu. On va en parler. Mais il y a deux manières dont on peut approcher ce problème. D'un point de vue évolutionnaire, un autre révolutionnaire. Moi, selon moi, nous devrions trouver des mécanismes dans notre communauté, dans la structure que nous avons actuellement, pour s'assurer qu'il y ait des mécanismes de remédiation et que le conseil d'administration soit responsabilisé et responsable envers la communauté. Nous aurons ces débats. Je soutiens tout à fait ce que vous avez dit. Je crois que c'est un petit peu prématuré. Nous n'avons pas besoin d'une unité externe qui soit supérieure et qui supervise l'ICANN. Je crois que nous pouvons réformer, évoluer et réformer nos mécanismes de responsabilité qui existent déjà. Oui, je suis d'accord. Et lisez nos statuts. Nous avons l'élection de nos membres du conseil d'administration qui représentent et qui sont responsables par rapport à l'entité, par rapport à l'ICANN. Ils sont responsables par rapport à l'ICANN. Dans le meilleur intérêt de l'ICANN, c'est dit, et non pas comme représentants des entités qui sont sélectionnées, qui les ont sélectionnées. C'est comme ça que ça fonctionne, l'ICANN, mais les responsabilités fiduciaires d'un membre du conseil d'administration sont envers l'organisation, l'organisme, ici l'ICANN. Donc c'est pour cela qu'il y a parfois ces problèmes qui existent. Vous voulez commenter également oui, pourquoi avons-nous besoin de cela? Eh bien, le gouvernement américain n'est plus là. Et nous sommes ouverts aux suggestions, tout à fait. Nous avons mentionné le fait que nous devons trouver un équilibre et des mécanismes de contrôle. Nous sommes tout à fait ouverts à toute proposition et à tout type de supervision. On n'a pas parlé d'un organisme supplémentaire. Nous voulons tout prendre en compte. Et notre point de vue, historiquement, nous avons remarqué que, pour le moment, ça ne fonctionne pas bien. Et que nous devons l'améliorer, faire évoluer cette situation et trouver donc, dans les 11 mois à venir, de nouveaux mécanismes. Oui, nous avons une question qui vient du hub de New York, du centre de New York. Donc, je poserai ces questions à la suite de l'intervention de... Oui, Jolie au micro. Oui, je suis de New York, de l'Internet Society de New York. Le calendrier, je vous ai posé une question sur le calendrier. Je ne vois pas l'urgence de la transition de l'IANA. Ce n'est pas brisé comme système. Je sais qu'il y a un contrat... une signature de contrat, il y a des propositions. Peut-être qu'ils ne vont pas accepter la proposition et qu'il y aura un autre contrat après, et que ça va se poursuivre. Moi, je crois que ce qui est urgent, c'est la responsabilité, question de juridiction et ainsi de suite. Mais ne fonçons pas, je crois, pour la transition IANA. Parce que je ne vois pas d'urgence pour le moment. Qui veut rebondir là-dessus ? Oui, vous voulez peut-être écouter ma question en premier, ou vous voulez répondre tout d'abord. C'est des questions très différentes. Moi, j'ai une question très différente. Donc, je m'appelle Milton Mueller, universitaire et membre de l'ICG et du groupe non commercial, des entités et parties prenantes non commerciales. Donc, j'ai écouté Malcolm Huddy au sujet de ce qu'on appelle les limites constitutionnelles de l'ICANN et de la mission de l'ICANN. Et... c'est un concept qui, hélas, semble trop facile pour qu'on soit tous d'accord là-dessus. Tout le monde dit, oui, bien entendu, ça doit être là, mais on ne parle pas véritablement de la mise en œuvre de cela. Donc, je voudrais souligner deux choses. Donc, le projet de gouvernance de l'Internet a un concept avec une formulation verbale de la manière dont on peut avoir des limites constitutionnelles de la mission de l'ICANN. Et deuxièmement, nous pensons que ces limites, on doit pouvoir les faire respecter. Et Steve c'est au niveau de tous les membres de la communauté. Si on a des règles, ces règles doivent être respectées et tout le monde devrait être en mesure de faire respecter les règles. C'est comme les lois sur les droits de l'homme. Mais je voudrais que vous réagissiez à cela. Si vous avez plusieurs relations contractuelles entre l'ICANN et l'IANA et vous avez ces limites constitutionnelles, est-ce que vous pensez que pour la voie numéro 1, c'est suffisant? Selon moi, c'est suffisant. C'est tout ce qu'on a à faire dans la voie 1, responsabilité. Mais je voudrais que m'assurer de votre accord et voir si vous êtes d'accord avec moi. Oui, merci beaucoup, Milton. Steve, au micro. Je crois que les 6 mesures que l'on a trouvées sont tous conçues pour limiter la portée. Pour les possibilités, donc, éventuellement, d'avoir un conseil d'administration qui puisse être limogé. Mais on peut évoquer ces clauses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si le conseil d'administration n'accepte pas une référence, il pourrait bloquer tout cela. Et ça, c'est ce qui m'inquiète au niveau de ce mécanisme. Il y a ce groupe de travail intercommunautaire et on pourrait utiliser le panel d'analyse indépendante. Et ça pourrait poser un problème de fonctionnement. Oui, moi, je crois que c'est une partie nécessaire de la solution, Avril Doria, mais ça ne suffit pas pour être une solution totale pour l'IANA. Parce que même si vous restez dans l'envergure constitutionnelle, dont vous portée constitutionnelle, je crois qu'on a besoin de mécanismes d'appel solides. Je crois que on a besoin de procédures d'appel qui soient contraignants. Donc, je crois que c'est un élément nécessaire dont vous venez de parler, Milton, mais pas suffisant. Donc, repartons à la question du calendrier qu'on nous avait posé de New York. Oui, cette question, on l'a posée plusieurs fois cette semaine. Et l'ICG a proposé, en effet, un calendrier avec des grands moments d'ici la date de septembre 2015. Donc, ça semble dire, mais vous n'allez pas réussir. Vous n'avez pas le droit à la réussite. Donc, nous avons publié ce calendrier. Moi, je crois qu'on doit essayer d'y arriver, de tenir les délais, de respecter les dates limites. Essayons. Moi, je crois que c'est bien d'avoir un petit peu de pression. C'est comme ça qu'on travaille le plus efficacement, et on peut réévaluer la situation l'année prochaine. Mais nous avons du temps devant nous. Tentons de réussir. Travaillons. C'est une bonne pratique de travail. Moi, je crois que c'est ce que l'on doit faire. Et je crois que ça s'est reflété dans le calendrier de l'ICG qui a été déjà publié. En ce qui concerne le calendrier, et je crois que le débat a bien montré qu'il y a 2 approches. D'ici septembre 2015, nous aurions une proposition qui parlerait des aspects de technique, de nommage, responsabilité, et il y a une approche où on irait plus loin, je l'appelle responsabilité gouvernance plus. Donc, comme quelqu'un l'a dit, le système techniquement fonctionne bien. Moi, je crois que le processus, ce n'est pas un problème technique qui s'est posé. Ce n'est pas pour cela qu'on a cette transition de l'IANA. Donc, je suis sûr que l'ICG va être en mesure de proposer une proposition très solide qui va permettre au système de continuer à très bien fonctionner techniquement. Donc, de ce côté, moi, je crois que ce serait une opportunité ratée. C'est une opportunité en or qui nous est donnée à toutes et à tous par le gouvernement américain d'améliorer l'organisation, la responsabilité, les mécanismes de gouvernance de l'Internet. Et comme je l'ai indiqué, c'est ma vue personnelle, je ne parle pas au nom de mon gouvernement, réfléchir à plusieurs niveaux de vitesse. Bon, septembre 2015 est une première date avec des premières mesures qui rentreraient en vigueur à cette date, mais ensuite, nous aurions une feuille de route qui pourrait aller plus loin, plus avant, dans le temps. Merci. Tel ambassadeur Fonseca au micro. Vous voulez dire un mot à ce sujet? Eh bien, on est vraiment en retard. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci de votre attention. Merci des centres Hub qui ont participé à distance. Merci à tous nos panélistes. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et si vous avez des questions, vous pouvez, je suis sûr, aller voir les membres de la table ronde. Merci beaucoup.